I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. Condition un peu particulière pour cet épisode spécial de Programme B, puisque vous l'entendez peut-être au son de ma voix, nous ne sommes pas dans les studios de Binge Audio, mais bien en public au festival Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ces magnifiques ateliers des Capucins à Brest. Donc c'est la seconde circonstance particulière pour cet épisode, puisque Brest, et vous le savez si vous suivez ce podcast depuis longtemps, c'est la ville où moi je suis né, c'est surtout la ville où j'ai expérimenté pour de vrai ce que ça voulait dire être journaliste. C'était à quelques centaines de mètres d'ici, sur la rive d'en face, dans la rédaction du Télégramme. C'était il y a plus de 15 ans, mais j'y ai appris toutes les bases et une bonne partie des astuces qui me servent encore aujourd'hui pour faire ce métier. Et c'est là aussi que j'ai commencé à m'interroger aussi sur ce rôle particulier du journaliste dans l'espace public, sur notre position qui va être le sujet de cette discussion avec mes deux invités qui, par leur simple présence, rendent eux aussi cet épisode tout à fait particulier. Alors bienvenue dans Programme B. Et bienvenue à mes deux invités, donc Sophie Nivelle-Cardinal, salut Sophie.
Salut Thomas.
Et Philippe Pujol, salut Philippe.
Salut.
Les auditeurs et auditrices fidèles de Programme B vous connaissent bien l'une et l'autre, puisque nous avons fait ensemble deux séries d'entretiens déjà, Désordre ordinaire avec Philippe, c'était en 2020, et Désordre extraordinaire avec Sophie, c'était en 2021. Alors pour resituer rapidement, vous êtes tous les deux journalistes, journalistes indépendants, Sophie plutôt spécialisée dans l'image et la télévision, autrice et réalisatrice de documentaires, de reportages, avec comme point de focal le Moyen-Orient, notamment les guerres en Libye puis en Syrie. Ce dernier conflit d'ailleurs, tu l'as suivi pendant 10 ans, ça t'a notamment valu le prix Albert Londres en 2016 pour Disparu, la guerre invisible, un film que tu avais co-signé avec Étienne Huvert. Et Philippe, également lauréat du prix Albert Londres, c'était en 2014, pour tes reportages à Marseille, qui est la ville où tu officies, et où pendant une grosse dizaine d'années, tu as suivi l'actualité criminelle, les faits divers pour le journal La Marseillaise. Depuis, tu as signé des livres, des enquêtes, des documentaires, des podcasts aussi, notamment avec Programme B, j'en profite pour faire un peu de pub. Si vous avez, si vous n'avez pas écouté Street Médoc, par exemple, eh ben, n'hésitez pas à aller le découvrir. Bon, il fallait bien trouver un point de départ à cette discussion à trois, et donc je me dis le plus simple, c'est de partir du tout début. Est-ce que c'était prévu, le journalisme, dans vos vies à l'un et l'autre, ou est-ce que ça s'est imposé à vous, Sophie ?
Non, moi j'ai toujours voulu être journaliste, donc ouais. Oui, c'était, y avait pas tellement de doutes, très tôt en fait, parce que j'avais eu la chance de voyager enfant, et que de vivre à l'étranger, je me disais que j'avais envie de continuer et surtout de partager ce que je voyais. Donc ça, c'était important. Après, comme on a déjà raconté, mais c'est vrai que c'était pas le reportage, oui, à l'étranger, oui, mais pas forcément les conflits. Et puis c'est arrivé et j'ai continué à couvrir des guerres en étant allé d'abord couvrir des manifestations.
Est-ce qu'il y a eu des moments déterminants avant d'être journaliste, justement, peut-être des reportages, des sujets, d'autres journalistes que tu as vus en action comme simple observatrice ou spectatrice et qui t'ont fait te dire « oui, c'est ça que j'ai envie de faire » et qui ont confirmé un petit peu cette intuition-là que tu avais ?
Alors non, j'ai pas de nature de fan. Donc c'est vrai que j'avais une idée très précise, journalisme. Je voulais pas aller en école de journalisme parce que je pensais que le journalisme ne s'apprenait pas dans une école et qu'il s'apprenait sur le terrain, à regarder les gens, à être avec les gens, à apprendre leur langue, enfin. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas cette de modèle particulier. Tintin n'était pas mon modèle.
C'était pas le modèle Tintin reporter. Toi, Philippe, ça s'est imposé à toi ou c'était prévu dans ton parcours?
C'était pas du tout prévu. Moi, j'ai fait de nombreux métiers avant d'être journaliste et je suis devenu journaliste par hasard comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'avant, j'ai été agent de sécurité, j'ai été informaticien et puis j'ai arrêté d'être informaticien parce que c'était vraiment un boulot que j'ai détesté profondément et j'ai refait une école de com. Enfin, j'étais peut-être à l'école de journalisme et de communication de Marseille, mais j'étais plutôt du côté communication. Et j'ai fait un stage à la Marseillaise parce qu'il fallait faire un stage. Et une fois là-bas, je me retrouve à la Marseillaise. Et puis à ce moment-là, ils ont besoin d'un fait diversier. Et comme je dis dans le podcast, on me nomme volontaire pour être au fait divers. C'est la méthode des communistes, ça, tu es volontaire. Et donc je me retrouve parce que c'est un journal communiste, la Marseillaise. Et donc je me retrouve fait divers. Et ça, double truc, à la fois je voulais pas être fait diversier parce que je passais mon temps à dire le pire chose qui pourrait m'arriver c'est d'être fait diversier, et en même temps ça me donnait un CDI, donc bon, ça me permettait de faire ça. Après, quand tu ne veux pas faire quelque chose mais que tu sais que tu y es pour longtemps, ben faut bien le faire, quoi, pour essayer de trouver au moins du plaisir. Et puis très rapidement je me suis rendu compte que le fait divers, qui ne m'a jamais passionné, qui ne me passionne toujours pas aujourd'hui, ça m'a quand même ouvert sur plein de choses, les questions sociales et les questions narratives, d'écriture, et puis surtout c'est une école accélérée du journalisme. Donc en quelques petites années à la Marseillaise, très vite j'ai eu des compétences journalistiques que j'aurais pas pu apprendre en école, c'est sûr, même si l'école non plus, il y a des choses bien à apprendre aussi au journalisme, mais j'avais quand même fait des études assez importantes. C'est surtout ça qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un background, une culture générale qui permet d'apprendre vite, d'apprendre bien.
Et la Marseillaise, des études scientifiques, pour le coup.
Moi, c'est scientifique, ouais, complètement, en biologie des populations, des écosystèmes. Ça me sert, puisqu'en fait, j'ai fait de l'éthologie, étude des comportements animaux, et j'ai utilisé mes techniques d'éthologie quand je fais du reportage. Encore aujourd'hui, j'ai ces techniques-là. Donc, ça ne sert pas à rien. Pareil, dans mon écriture, j'ai un système de structure qui me vient tout droit de ce que j'ai appris, de la systémique que j'ai appris quand je faisais de la météorologie ou de la cybernétique. Donc on utilise un petit peu quand même toutes ces méthodes. Et donc moi, j'ai jamais voulu être journaliste, j'ai jamais voulu être écrivain, j'ai jamais voulu faire du documentaire. Eh ben, je fais tout ça. Mais c'est pas grave, j'ai jamais repoussé ça pour autant.
Je sais que tu le vis bien. Est-ce que, pareil comme pour Sophie, est-ce qu'il y avait, toi, dans ton parcours de lecteur et d'observateur, avant d'être toi-même journaliste, des noms, des figures, des documentaires, des œuvres qui t'ont marqué, qui t'ont un peu, peut-être inconsciemment orienté vers ça, ou est-ce que, pareil que Sophie, Tintin, c'était pas ton modèle?
Alors, c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire, moi, je veux pas non plus citer de noms parce que j'étais pas. J'étais pas quelqu'un qui consommait autant que ça de l'information. Je lisais pas le journal tous les jours, sauf quand je suis rentré à la Marseillaise, mais c'était même pas le cas. Je regardais beaucoup de documentaires, mais sans jamais même savoir qui les faisait. Donc, oui, je pouvais dire ce documentaire me plaît, mais j'aurais jamais pu dire qui les faisait. J'ai jamais lu les signatures des papiers. Je l'ai fait que quand j'ai pris ce métier, en fait. J'ai jamais lu qui signait. J'avais pas ce sens-là que j'ai eu par la suite, et ça permet pas seulement de rendre hommage, ça permet aussi d'apprendre, en effet, mais je pourrais pas citer de gens, mais en effet, quand même, j'avais une culture du journalisme qui était liée à la culture syndicale de mon père. C'est-à-dire que mon père était un délégué syndical important de la CFDT, à Marseille, dans les douanes, et donc j'ai toujours entendu parler, quelque part, des sujets journalistiques au travers des sujets sociaux. Et c'est plutôt ça qui a fait pour moi une culture, en plus en rentrant à la Marseillaise, donc journal communiste, où il y a tout angle est un angle sociétal et social. Donc c'est ce qui a fait que moi je suis parti ensuite vers des angles sociétaux et sociaux qui est lié à ma vie de jeune ado et de jeune adulte, mais pas de nom à citer.
C'est quand le moment où vous êtes senti journaliste? Est-ce que d'ailleurs il y a eu un moment où vous vous êtes senti l'un et l'autre journaliste? Sophie, il y a eu un, un point de bascule ou ça s'est fait progressivement
Je crois que quand on a la carte de presse, on se sent journaliste, surtout en France. Mais après, c'est surtout quand, je sais pas, c'est le premier reportage diffusé, publié.
Tu t'en souviens des tout premiers reportages, toi?
Oui, je me souviens, parce que mes premiers reportages, c'était à Taïwan. Donc, c'était il y a bien longtemps, pour une radio taïwanaise. Et c'est assez marrant, parce que ben, vous diffusez, vous savez pas ce que devient le reportage. Donc, je me souviens de cette première fois, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est fait. Donc, ça, c'est assez déconcertant. Hein.
Et toi, Philippe, tu t'es senti journaliste tout de suite ou
je suis senti journaliste, je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, est-ce que je suis journaliste, écrivain, documentariste, je sais rien, je m'en fiche complètement. Et j'ai plus de carte de presse depuis 2016, j'ai jamais revendiqué pour en avoir une. Je suis journaliste de fait parce que j'ai écrit beaucoup de choses, parce que j'ai le prix Albert Londres, parce que dès qu'il y a un truc sur Marseille, on m'appelle. Je suis plus marseillologue que journaliste presque, et donc régulièrement, oui, je suis journaliste et c'est Ça m'indiffère totalement, mais en effet, dès ton premier article, tu te sens aller vers le journalisme. Dès que tu as la carte de presse de stagiaire au début, tu te sens journaliste. En fait, tu te sens journaliste quand tu fais du terrain et que tu reviens avec de l'info quelque part. C'est tout simplement ça. Et qu'après, tu la retransmets. Mais c'est pas un sentiment important pour moi. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'être comme ça parce que j'ai la petite notoriété qui va avec mon prix, avec ce que j'ai pu faire. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, c'est pas important. C'est vrai qu'au début, on a besoin d'être reconnu un peu par ses pairs à un moment. Donc c'est à ce moment-là qu'on se sent journaliste quand on commence à parler avec toi d'égal à égal à ce niveau-là.
Et qu'est-ce que vous
Premier article, c'était sur la pêche à la mouche. Hein,
sur la pêche à la mouche,
quand même pas mal.
Effectivement,
pas négligeable.
On n'était pas dans les faits divers tout de suite, quoi. Qu'est-ce que vous mettiez l'un et l'autre derrière ce mot de journaliste avant d'en avoir la carte ou sinon le statut? Ça représentait quoi peut-être même un peu conceptuellement, quoi?
Moi, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'étais très déçu quand je suis revenu en France et de constater que, et c'était il y a 20 ans, il y avait déjà une grande défiance vis-à-vis des journalistes, alors que tout le monde avait un avis sur les médias et les journalistes. J'avais trouvé ça très déconcertant. Et donc non, c'est quelque chose de, pour moi, le journalisme, c'est un des piliers de la démocratie, tout simplement, enfin très simplement. Et c'est peut-être un peu prétentieux, mais on contribue, oui, à une vie publique équilibrée, tout simplement. Donc moi, c'était vraiment ça. Et puis le reportage, quoi, aller raconter les gens, aller voir ce qui se passe ailleurs. Et le raconter, le partager.
Oui, parce que ça on le dit dans le podcast et tu l'as redit un peu tout à l'heure. Même dans le titre reporter de guerre, qui est celui auquel on te ramène la plupart du temps, ce qui t'intéresse toi, c'est pas la guerre, mais c'est le reportage.
Bah, je pense que c'est le mot le plus important. Souvent, on focalise beaucoup et il y a beaucoup de clichés, d'idées reçues, de fantasmes sur le reporter tout court, enfin sur le reporter de guerre, mais oui, dans le reporter, dans le reportage de guerre, c'est toujours reportage qui est plus important.
Toi, Philippe, c'est un mot derrière lequel il y avait une idée, un peu un concept, ou encore une fois, c'est...
Non, c'est pour moi, c'était un notable. Ouais. Pour moi, le journaliste, c'était un notable, inaccessible, parce que notable, et que moi qui venais d'un milieu social où pas de notable du tout. Donc, pour moi, le journaliste, c'était un notable, respectable, important. En effet, j'avais déjà cette idée-là. Je pense encore que le journaliste est important et que plus que jamais aujourd'hui, l'information qui est produite par des journalistes dont on comprend la ligne c'est l'information la plus importante dans une époque où tout le monde génère de l'information par les réseaux sociaux, par maintenant de plus en plus de canaux. Le journaliste est celui qui sélectionne et il sélectionne sur des critères importants. C'est celui qui voit, qui fait du terrain, qui va ramener les infos les plus proches. J'ai toujours dit que la PQR, donc la presse quotidienne régionale, c'était le plancton du journaliste, c'était le point de départ. Mais quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, la première chose que fait un journaliste qui va traiter de quelque chose au fin fond d'un pays, de l'Islande ou quelque part, il fait appel à quelqu'un de la PQR locale. Après, on peut appeler ça plus tard un fixeur quand c'est dans d'autres endroits, mais souvent le journaliste local, c'est le premier contact. C'est pas lui qui va faire le job, mais c'est le premier contact. C'est le plancton, quoi. Et moi, très souvent, et encore aujourd'hui, on m'appelle du monde entier pour faire un truc sur Marseille. Cette idée que j'avais du journaliste comme une sorte de notable était peut-être exagéré, ou alors ça a évolué, c'est possible aussi. Puis j'étais à la Marseillaise, donc là pour le coup c'était pas des notables. Mais par contre, sur l'importance du journalisme, je l'avais même sous-évalué. C'est-à-dire que maintenant je me rends compte à quel point. point, c'est encore plus important, totalement primordial, dans une époque où on est quand même 70 000 journalistes en France. Et je pense pas qu'il y en ait 70 000 qui fassent un travail de journaliste. Je suis un peu dur, mais je pense que on est aujourd'hui dans des journalismes tellement fragmentés qu'on donne le même nom à des métiers très très différents. C'est-à-dire que moi, je ne fais jamais de titre du genre voilà le top 5 de top 10 des moments les plus importants à Marseille. Le cinquième va vous étonner. Je fais pas des titres de ce titre. Et ça, ils ont la carte de presse, ceux qui font ça. Donc, et à la rigueur, autant qu'on appelle ça autrement. Enfin, pour moi, j'aurais pour qu'on redistribue un peu les cartes, quitte à appeler les uns les reporters, les autres, je sais pas comment, mais. Tous journalistes, non, pas du tout, on en est loin. Et heureusement, c'est-à-dire, c'est un métier à part entière. Il y a des techniques pour avoir des choses, il y a des techniques pour retranscrire, il y a de l'éthique, il y a on va y venir à coup sûr, il y a de l'objectivité ou de la subjectivité, il y a des choses de ce genre. Donc, le journaliste, quand on sait qui parle, c'est important.
Et surtout, c'est du travail. On a souvent l'impression.
En plus, c'est un travail, oui. Oui, à un moment, il faut avoir un salaire pour ça, quoi. Faut en vivre aussi.
Mais c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que même. Que ça soit la PQR ou quand on écoute le podcast de Philippe, on voit que tu t'es pris la tête, t'as réfléchi sur les sujets, sur comment les écrire, comment les raconter. Et c'est pareil qu'on va faire du reportage même au bout du monde, c'est beaucoup de boulot quoi en fait. Et donc il y a rien d'instantané. On a souvent tendance à oublier ou tendance à penser que les journalistes, c'est effectivement, enfin il y a plein de réalités différentes, mais il s'agit pas de faire des tweets ou de juste donner notre avis sur un plateau de télé. Il y a beaucoup, beaucoup, enfin, c'est beaucoup de boulot, quoi. Il n'y a rien d'instantané.
Puis de l'engagement. C'est-à-dire, je dis pas du militantisme, hein, parce que moi, quand j'étais dans un journal, des fois, on me disait militant. Non, je suis pas militant, j'étais dans un engagement. Et un engagement, je suis toujours sur les classes populaires. Moi, mon objectif, c'est de raconter les classes populaires. Pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe là, pourquoi il y a des affrontements. Je n'ai pas un angle qui va venir d'en haut en bas. Je vais pas avoir un angle qui vient du monde politique. Je vais avoir un angle des classes populaires. Et d'autres vont avoir des angles différents. C'est très important, la diversité des angles. Mais cet engagement, ce travail, ne peut être fait que par des journalistes. Donc plus que jamais, il faut des journalistes. Après, il faut des journalistes... Il faudrait vraiment qu'on renouvelle un petit peu ce métier dans ces appellations. Moi, j'ai plus la carte de presse parce que je vends des livres. Donc, et c'est pas grave, j'ai pas de combat là-dessus. Mais c'est ridicule quand on y pense, là, parce que la carte de presse, elle sert grosso modo qu'à rentrer gratuit au musée, quoi. Mais après, de temps en temps, quand il y a une manif, maintenant, il y a les flics qui vont te demander la carte de presse. Et moi, je leur dis, mais je suis journaliste. Ah ouais, vous avez la carte de presse, je lâche l'affaire, c'est bon, c'est même pas la peine, j'essaie même pas de leur dire qui je suis, aller sur Google ou quoi que ce soit. Et donc, faut trouver d'autres ruses, je passe par d'autres accès. La carte de presse, elle peut servir, puisque la loi Macron a mis ça en place. Il faut avoir la carte de presse maintenant pour quand il y a une manif. Donc, couvrir des manifs sans carte de presse, on se complique la vie. Eh ben moi, je ne l'ai pas, par exemple. Moi, j'aurais des difficultés à couvrir une manif.
En l'occurrence, c'est bien de rentrer gratuitement au musée, mais c'est très important à l'étranger, dans des régimes ou dans des pays ou des situations très compliquées, d'avoir une carte de presse.
C'est une forme de protection ?
C'est une forme de protection, c'est un laisser-passer. Donc, il y a des régimes qui le demandent pour avoir des visas. Ou si vous êtes à des barrages, des checkpoints, même si les gens ne savent pas lire, ils sont contents de voir une carte. Et sinon, parce que sinon, souvent, on nous accuse, enfin, la plupart du temps, on est accusé d'être des espions. Et personne ne veut des espions. Donc, si vous n'avez pas de carte de presse, qu'est-ce que vous faites au milieu de nulle part où il n'y a personne qui vient ? Donc, cette carte de presse, elle est importante. Après, qu'elle soit française, qu'elle soit internationale, peu importe. Mais elle est très, très importante. C'est pas du tout anodin.
Et est-ce que tu as la sensation aussi, ou peut-être que tu as un point de vue différent là-dessus, que le terme et donc la profession, c'est un peu... trop étendue ou mériterait qu'on la recadre un peu ?
Non, là où je suis d'accord avec Philippe, je ne sais pas si on a besoin de redéfinition. De toute façon, la réalité nous oblige à redéfinir parce que la technologie, parce que la révolution de l'information qu'il y a eu ces dernières années avec le smartphone, avec l'Internet. Donc, tout ça, on est obligé de se redéfinir. Après, je pense que le journalisme a toujours couvert une grande variété de professions qu'il y avait. Il y a toujours eu des éditorialistes, sauf qu'avant, il y avait cinq journaux, trois JT télé, deux JT télé, et c'est tout. Et les radios le matin. Donc même toute la diversité que ça recouvrait, on la connaissait pas forcément. C'est pour ça que moi j'étais très déconcertée quand j'ai commencé à faire du journalisme ou à être journaliste en France. Tout le monde avait un avis sur la profession, mais pas grand monde savait exactement ce qu'on faisait. C'est-à-dire que si je disais que je travaillais pour la télévision, on me parlait de PPDA. Je disais, ouais, mais PPDA, il est présentateur, il est pas, il fait pas du reportage, on fait pas tout à fait la même chose. Et si vous êtes reporter à la télévision, pour le JT, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Quand les reportages étaient diffusés, c'est, mais c'est toi qui parles? Non, mais je parle, mais je fais pas que parler. Donc je crois qu'on a, et c'est bien d'être pédagogique, d'être pédagogue, pardon, sur cette profession, parce que je pense qu'elle est mal connue et que la défiance n'a fait que grandir ces deux dernières décennies. Mais on est obligé de redéfinir la profession parce que, même aujourd'hui, est-ce que finalement on n'est pas voué à disparaître avec l'intelligence artificielle? Si l'intelligence artificielle a des logiciels qui peuvent écrire des histoires en disant bon bah tu l'écris avec le style proustien ou le style de Houellebecq et on met quatre éléments et l'histoire est, et l'article est écrit, est-ce qu'on n'est pas déjà des dinosaures? Est-ce que c'est pas terminé pour nous? Mais c'est une vraie question. Comment le journalisme va continuer à exister? Comment on va continuer à raconter des histoires? Est-ce que voilà, moi c'est une vraie question. Alors on est obligé parce que il y a cette réalité technologique qui fait que de toute façon on est obligé de se redéfinir.
Est-ce que c'est pas une chance si on reste sur cette idée de d'un métier qui est en pleine mutation? Effectivement, est-ce que c'est pas une chance justement pour des journalistes qui, comme vous deux, être accrochés au terrain justement? A priori, on n'en est pas encore aux IA qui font des reportages. Ça viendra peut-être.
Peut-être, mais je pense que oui, effectivement, on peut se dire qu'est-ce qui va rester. Moi, je touche au-delà du terrain. Je pense que de toute façon, l'intelligence humaine est nécessaire et que sans stratégie, sans quelqu'un qui pense, d'accord, ça va peut-être faciliter finalement la rédaction de textes qui sont pas très intéressants, enfin, très fastidieux à écrire. Mais il y aura toujours besoin d'hommes et de femmes qui réfléchissent, qui pensent, qui organisent. Donc moi j'ai pas tellement peur de disparaître. Et oui, après le terrain, effectivement, est-ce que les robots peuvent être avec les gens? Est-ce que des puces peuvent être avec les gens, les raconter, les sentir, les regarder? C'est encore une autre histoire. Hein.
Philippe, toi là-dessus?
Ben, le terrain, oui, c'est la base de l'information avant même l'analyse. Il faut bien analyser quelque chose. Et si on analyse le terrain des autres, c'est déjà autre chose encore. Donc, il faut faire un terrain soi-même. Ça veut dire rencontrer des gens. Ça veut dire chercher des histoires, chercher des éléments. Alors, toujours la même chose. Il faut vérifier, il faut recouper. Ça, c'est notre job. Mais ensuite, c'est surtout comment on le restitue, l'écriture derrière. Bon, moi, j'essaie d'y mettre de la manière. J'essaie d'y mettre du style. Est-ce qu'une intelligence artificielle pourra faire ça? Peut-être un jour. On n'en est pas encore là. Et c'est, de toute façon, elle fera pas le terrain. Ça, c'est sûr. Donc, il nous restera au moins ça. Et puis après, dans l'écriture, moi, il y a le plaisir d'écrire aussi. C'est laborieux et c'est particulier. C'est comme certains sports. C'est à la fois laborieux et à la fois très plaisant d'écrire des textes en se compliquant la vie. Moi, je suis pas, vu ce qu'il me reste d'années à travailler, ça va. Les intelligences artificielles ne me piqueront pas ma place, peut-être plus tard, mais moi, ça va aller. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura besoin de reporters, toujours. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant, important. Et puis, si les intelligences artificielles demain, si ChatGPT fait les résumés des matchs de l'OM, c'est pas grave, hein. C'est si on lui rentre à quelle minute il y a eu tel but, tout ça, qu'il nous faut un papier ou dedans où on a tous les lieux communs que de toute façon on écrit dans ces articles, c'est pas grave, ça me va très bien. Au moins, ça va plus vite. Mais il faut qu'on maintienne d'autres types de papiers. Donc commentaires, les papiers de reportage et certains papiers d'analyse, ça va rester pendant longtemps encore pour l'humain, c'est certain.
Alors, tu parlais de plaisir à l'instant, Philippe. L'un et l'autre, vous bossez sur des matières qui sont très spécifiques, que ce soit donc le crime, la délinquance ou les conflits, les guerres. C'est des sujets qui sont difficiles et le paradoxe, c'est qu'ils sont passionnants professionnellement, ils peuvent même être épanouissants. Comment est-ce qu'on gère justement cette dualité entre l'horreur ou la difficulté de la matière qu'on traite et l'intérêt journalistique qu'on y trouve? Il y a une forme de paradoxe là-dedans.
Il y a beaucoup de paradoxes, mais on vit avec plein de paradoxes, il faut les accepter. Mais je crois que ce que disait Philippe dans le bonus que vous aviez...
Sur les incendies.
Voilà, sur les incendies, sur les feux de... les feux de forêt m'a fait penser un peu à le paradoxe qu'on a, le plaisir qu'on a à aller en reportage parce que il se passe quelque chose en général de pas super, que ça soit une guerre, une catastrophe naturelle ou une révolution, etc. Et donc, il y a ce paradoxe où, oui, on est content d'aller en reportage, on est content d'aller vers l'inconnu, on est content, enfin, moi, j'aime bien aller ne pas savoir où je vais et puis me dire que ça va être génial parce que je vais bosser, parce qu'il va falloir faire le boulot, quoi, faire le taf et comprendre ce qui se passe, aller chercher l'info, décrire. Mais c'est un paradoxe parce qu'en général, oui, c'est pas des événements très heureux, quoi. Est-ce que ce bonus que j'ai réécouté là en venant m'a fait penser à ça, comme Philippe raconte, oui, quand il y a un feu de forêt, en fait, c'est un peu excitant, même si on est en bataille.
En fait, il y a une complète schizophrénie, qui est une schizophrénie nécessaire. C'est-à-dire, on a deux cerveaux. Il y a le citoyen, il y a le journaliste. Et moi, des fois, pendant qu'on me raconte des choses dramatiques, il y a, d'un côté, je trouve que c'est dramatique, de l'autre côté, je me dis, c'est trop bon. Et on me parle de choses, et je me dis, mon papier va être trop bon. Je sens que ça va être super, parce qu'il se passe des choses terribles. Il y a ce côté, c'est-à-dire qu'il faut faire vraiment la distinction entre ces deux choses-là, c'est-à-dire il y a le professionnel à l'intérieur de soi qui va écrire un papier et qui, lui, est dénué de tout sentiment, totalement dénué, et où tu prends de l'info et tu te dis comment je vais l'arranger, et même comment je vais même faire naître tel sentiment en mettant ça devant, ça après, ça, et donc quelque chose de très cynique. Et à côté, le citoyen, qui n'est pas le journaliste, qui est celui en plus qui s'exprime, donc c'est celui qui montre l'apparence, parce que quand on te dit quelque chose de triste, il faut pas rigoler à ce moment-là. Celui-là, il faut pas qu'il disparaisse aussi, parce que c'est celui qui va faire que tu vas garder déjà toute ta raison, et qu'en plus, ton papier sera quand même avec un angle et surtout cette fameuse subjectivité importante qui va être celle de la caméra que tu es, c'est-à-dire la caméra sensible dans le sens photographique du terme. Tu es sensible, tu aspires tout, et donc cette schizophrénie, elle est permanente, mais dès que tu fais une interview, tu es schizophrène, parce qu'en même temps, quand tu interroges quelqu'un, tu penses à ton article, tu penses à tes questions, tu regardes si la personne en face de toi est mal à l'aise ou au contraire va bien. Si elle est mal à l'aise, des fois c'est ce que tu cherches, des fois tu cherches l'inverse, et tu vas en même temps avoir un regard extérieur pour voir comment la personne te perçoit, mais tu penses à tellement de choses en même temps qu'il ne faut pas avoir le téléphone qui fait bip bip en même, parce que là ça devient très complexe. Le journalisme, c'est une au moment du terrain, c'est très agréable et en même temps très fatigant, parce qu'il y a une schizophrénie forte. Moi, j'avais interviewé un gros journaliste américain, Guetalès, qui m'avait dit ça d'entrée, sans qu'on en parle d'entrée, il m'avait dit, nous, c'est la schizophrénie, c'est un journaliste, c'est schizophrène. C'est exactement ça. Donc, en effet, cette sensation où il y avait un feu de forêt qui démarrait, et ça m'emmerdait, c'est ma région, je savais très bien que c'est terrible, que ça met 30 ans. Et en même temps, tu pars en courant pour trouver une voiture du journal, tu te bagarres avec un photographe pour lui chourer la voiture avant qu'il parte avec. Mais en fait, c'est trop bon, c'est trop content. C'est trop content de partir sur un feu de forêt, parce que c'était mon petit reportage de guerre à moi, les feux de forêt. Et donc, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça tout en étant désespéré que ça arrive. C'est vraiment très particulier.
Oui, c'est une dualité qui peut aller assez loin, parce que Sophie, on en avait parlé dans Désordre Extraordinaire, où tu disais toi-même qu'il y avait un côté un peu dérangeant dans l'idée de se sentir à sa place, mais sur un terrain de guerre.
Ah oui, parce que moi, la première fois, qu'on mentionnait tout à l'heure, en fait, j'avais pas de velléité particulière de devenir reporter de guerre. Par contre, oui, je faisais du reportage et c'est le reportage qui m'intéressait. Et quand je me suis retrouvée à Benghazi à couvrir, en fait, on est arrivé, il y avait plus de soldats Kadhafis, donc la ville était libérée du régime, sauf qu'il y a eu une contre-offensive kadhafiste 10 jours plus tard. Donc là, il a commencé à avoir des lignes de front, des bombes, etc. Et en fait, paradoxalement, oui, moi, je me suis sentie à ma place. Je me suis dit, mais en fait, ça me plaît, ça marche, je sais comment ça fonctionne, je sais jouer, je sais comment ça marche. Et donc, oui, je me suis dit, je me sens bien ici. Et oui, c'est un paradoxe. Et après, c'est un paradoxe parce que c'est dérangeant aussi de se dire que la guerre, qui est un événement aussi cruel, injuste et dur et violent, finit par prendre autant de place dans ta vie, que ça soit la vie professionnelle ou personnelle, parce que tu peux pas Et je vais revenir à ce que disait le podcast de Philippe, mais Philippe le dit aussi très bien, quand quand tu vois des morts, des crimes, tu ramènes ça chez toi, donc il y a un truc, enfin tu ramènes ça, c'est en toi, tu peux pas les oublier, donc forcément ça prend beaucoup de place et c'est un paradoxe, oui, de se dire que on aime faire du reportage de guerre, on se sent à sa place sur des terrains de conflit, mais on vit avec ces paradoxes, faut les accepter. Hein.
C'est une interrogation qui vient a posteriori, j'imagine, parce qu'une fois que t'es prise dans le moment ou dans l'événement, peut-être qu'on se pose un petit peu moins la question.
Non, moi je m'étais fait la remarque directe. J'avais compris direct que ça marchait, que ça me plaisait, que voir, j'étais peut-être un peu étonnée que ça me plaise autant et que je me sente aussi autant à ma place. Donc je m'étais fait cette remarque, puis après, je savais faire le boulot, quoi. Donc les reportages étaient bons, donc ça marchait. Et puis je continuais à raconter les histoires et à vouloir les raconter. Après c'est pas un cercle vicieux. Si quand on est bon, c'est bien qu'on bosse. Mais c'est vrai que non, tout de suite je m'étais fait cette remarque en me disant attention, c'est curieux.
Mais surtout, on n'est pas la cause de ce qui se passe. C'est-à-dire que on est l'observateur de quelque chose. Et qu'on soit là ou pas là, ça arrive. Et donc, être là, c'est notre job. Et après, il y a les choses personnelles qui font que tu t'y sens bien. Tu t'y sens bien, c'est relatif. Tu t'y sens bien parce que justement, tu te sens un peu utile quand même, parce que tu vas le transmettre. Tu te sens bien parce que tu vois que ça marche. Moi, j'ai le truc pour faire parler les gens. Voilà, j'y arrive. Et donc, t'es content presque personnellement de voir qu'il arrive. C'est très personnel, c'est très narcissique même. Et puis tu crées ta petite aventure. Moi, dans les réseaux de stup, j'ai vu des trucs, j'ai fait des trucs. C'est ta petite aventure. Il y a des choses à raconter incroyables que tu racontes. Et tu racontes pas tout d'ailleurs. Mais comme tu n'es pas la cause de ce qui arrive, moi j'ai pas de problème de conscience de ça. C'est pas J'ai couvert plus de 200 règlements de compte, plus que ça. Je suis responsable d'aucun de ces règlements de compte, quoi. Et même par mes écrits, c'est-à-dire, je pense pas avoir engendré quoi que ce soit. Par mes écrits, j'ai pu engendrer des choses. Je pense pas des morts, mais des embrouilles, ça certainement. Et d'ailleurs, là, tu culpabilises. Là, tu te dis merde, c'est pas mon rôle quand même qu'il y ait une embrouille parce que j'ai écrit ça. Là, c'est autre chose. Mais et là, t'es attentif à ça au moment où il faut se tromper déjà. C'est normal de se tromper. On essaie de se tromper le moins possible et dès le début ne pas se tromper, mais on se trompe. Et on essaye d'apprendre aussi à ce moment-là. Mais voilà, on n'est pas la cause de la situation.
On va écouter un petit extrait de Désordre Extraordinaire, la série qu'on a fait avec Sophie.
Il y a une image très romanesque du reporter de guerre, qui est en général un homme, le visage un peu buriné, avec un gilet à poche et une écharpe aussi, très important. Il y a une vérité, il y a toujours un fond de vérité dans le cliché. Et oui, le gilet à poche et avoir plein de poches, c'est quand même très très utile quand on est en reportage, parce que plus encore maintenant avec les téléphones, plus si vous avez du matos, quand vous avez une caméra, ben oui, il faut pouvoir avoir les cartes, les batteries, le foulard aussi, c'est très utile, un foulard. Quand il fait chaud, quand il fait froid, pour si vous avez l'occasion de prendre une douche, ça peut servir de serviette. Si vous avez l'occasion de dormir, ça peut servir de coussin. Donc en fait, il y a un fond de vérité dans ces clichés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de reporters qui ne ressemblent pas à ça. Et après, moi, je pense aussi que c'est bien de passer inaperçu et de pas forcément se faire repérer.
Si je voulais qu'on l'écoute, c'est parce que vous incarnez l'un et l'autre deux types de journalistes, de modèles de journalistes, on va dire, auxquels on a associé pas mal d'idées reçues, voire de clichés. Donc il y a la reporter de guerre, le fait diversier. Comment est-ce qu'on se prémunit, Sophie, de ces fameux clichés du gilet à poche, du visage buriné et de l'écharpe?
Très simplement, moi je suis pas un homme, donc souvent ça surprend.
S'il y a de plus en plus de femmes reporters de guerre.
Il y a énormément de femmes. D'ailleurs, ça me fait toujours sourire quand je réponds à des interviews. On dit alors maintenant c'est nouveau, il y a des femmes reporters. Non, il y en a toujours. Il y en a toujours. Après, elles ont été comme partout ailleurs invisibilisées, mais il y en a beaucoup. Et par exemple, et au Moyen-Orient, il y en a. Je pense que la majorité des reporters, notamment chez les Anglo-Saxons en tout cas, sont des femmes. Donc que ça soit Moyen-Orient ou pas Moyen-Orient, mais non, on s'en prémunit pas. Après, je pense que voilà, il y a un fond de vérité dans le cliché et qu'il y a cette idée romanesque qui accompagne le métier qu'on fait. Donc après, on n'est pas les seuls à faire des métiers un peu extrêmes. Il y a les pompiers, il y a les neurochirurgiens, il y a les pilotes d'avion. Donc on s'en prémunit pas. C'est un peu l'effet waouh quand on fait ce boulot, quoi. Souvent on peut en jouer, C'est souvent drôle d'ailleurs, mais non, après il faut juste pas oublier. De toute façon, après on est reporter quand on est sur le terrain. Sur le terrain, que ce soit reporter de guerre ou pas, enfin l'enjeu c'est vous faites le boulot ou pas, quoi. Donc après, oui, socialement, en termes de représentation, oui, ça existe, mais sinon. Sinon, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes sur le terrain. Quand il n'y a pas de reporter de guerre ou pas reporter de guerre, c'est juste vous êtes journaliste et reporter, vous faites le boulot.
Toi, Philippe, c'est quoi les clichés du fait diversier? C'est le blouson en cuir, le mec qui va dans les bars louches, moitié flic, moitié voyou.
Bon, le fait diversier, c'est un alcoolique qui est dans les bars tout le temps, normalement, et qui fume des gitanes, quoi. Ça a existé. Moi, j'en ai connu. J'ai connu les derniers faits diversiers comme ça à Marseille. J'en ai connu. Et après, il y a des styles, il y a des manières de travailler. C'est comme dans le sport, il y a des manières de jouer au foot, il y a des manières de faire du tennis. Et ben là, il y a des styles de journalisme, il y a des styles de faits diversiers. Moi, je suis pas du tout un journaliste de salon. Je suis très mauvais pour aller parler avec des avocats, tout ça. C'est vraiment pas mon truc. Mais s'il faut le faire, je sais le faire quand même. Mais c'est pas mon style premier. Moi, ce que je sais bien faire, c'est parler au milieu populaire. J'arrive à adopter le langage et pas qu'à Marseille, quels que soient les accents, quels que soient les milieux populaires. C'est un truc que je sais faire.
Philippe fait très bien l'accent breton.
Je fais tous les accents. Mais je ferai un spectacle accent.
On fera après.
Ouais, je peux faire aussi plein de voix. Bah bon, on fera ça une autre fois.
On fera un épisode spécial.
C'est un autre truc. Mais je m'en sers par ailleurs. On se sert de tous ces compétences. C'est-à-dire, je suis capable d'adopter plusieurs niveaux de langage, plusieurs manières de me tenir, de me positionner. Je pense beaucoup mon corps et ma voix et ce que je dis quand je suis en reportage, en fonction des gens à qui je parle. Mais après, moi, j'ai joué sur. Et puis en plus, on vieillit. Je plus la même tête aujourd'hui qu'il y a 10 ans, j'ai plus les mêmes méthodes. Dans les cités, avant, on m'appelait au frérot, aujourd'hui, on m'appelle au tonton. Donc, quand on t'appelle au tonton, ça veut dire qu'on te prend pour un flic. Et donc, je joue sur le côté flic. On me prend pour un flic. Mais nickel. Mais, sauf, comme je leur dis, en plus, ça leur fait peur parce qu'un flic, ça rentre jamais seul dans une cité. Dans une cité, un flic, syndicalement parlant, ils doivent être 3. Et des fois, ils y vont à 2, mais ils y vont jamais seuls. Donc, ils le savent, ça. Hein, les dealers savent ça. Donc, quand ils me voient seul, ils me font, oh, tiens, Condé. Ouais, mais je dis, mais seul, tu as déjà vu un Condé seul? Ah ouais, c'est vrai. Et là, je sens qu'ils sont troublés, ils sont perturbés, il faut jouer avec ça. Mais j'avais d'autres méthodes avant, j'avais d'autres techniques. Il faut se sentir évoluer, pas résister. Je veux dire, on m'appelle tonton, c'est mort, quoi, hein, ça va continuer. Hein. Et j'adopte quelque chose de particulier. Après, la police, ils me prenaient aussi pour un flic. J'ai jamais à l'évêché. L'évêché, c'est l'hôtel central de police à Marseille, qui s'appelle l'évêché, parce que c'est dans un ancien archevêché. J'ai jamais sorti, à l'époque, j'avais la carte de presse, Mais jamais arrivé, j'ai juste levé la main. Et ils ont toujours pensé que j'étais à la brigade des stupes. Toujours. Et alors, je suis toujours passé sans jamais. Et puis j'allais dans les. Normalement, le journaliste, il est conduit, tout ça. Et moi, j'allais dans les bureaux où je voulais. Et pour la petite histoire, tellement c'est terminé, tout ça, j'avais sorti un gros truc sur les renseignements territoriaux, qui s'appelaient à l'époque les RG, qui avaient fait une énorme enquête sur l'islam à Marseille et les mosquées radicalisées. Et moi, comme je me promenais dans les locaux, je tombe sur ça. Je vais donc dans l'endroit des. Et comme il me prend pour un flic, c'était les premiers téléphones portables avec appareil photo. Bon, j'ai tout photographié. J'ai laissé passer 3 semaines et j'ai sorti le truc. Ils ont fait une enquête à plus de 20 000 euros pour savoir qui avait balancé. Mais personne n'avait balancé. C'est juste avec ma gueule de flic, je m'étais retrouvé dans ces trucs-là et j'avais photographié. Mais j'ai fait ça, mais des dizaines de fois. J'aurais volé une quantité d'infos incalculable. C'est le jeu. C'est-à-dire, moi, je culpabilise pas. C'est ma fonction. Eux, ils passent leur temps à nous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que quand il y a des périodes où ils veulent pas qu'il y ait des vols à l'arraché. Parce que, politiquement parlant, faut plus qu'il y ait de vols à l'arraché. On te déclare plus aucun vol à l'arraché. Donc, les statistiques tombent, soi-disant. Mais c'est juste qu'ils sont pas déclarés. Et quand, au contraire, il y a besoin de faire un plan anti sur un centre-ville, là, ce qu'on va te déclarer le premier vol à l'arraché qui arrive. Moi, au début, je me faisais avoir. Puis, petit à petit, j'ai pigé qu'il y avait des saisons comme ça. J'ai dit, bon, OK, ils ont des besoins. Bon, mais si je joue au con, je joue au con aussi. C'est un jeu comme ça. Il y avait des préfets avec qui ça s'est très mal passé, des préfets avec qui ça s'est très bien passé. C'est de la bagarre. Mais moi, j'adorais ça, moi. La bagarre avec les autorités, c'était un truc, je me régalais, quoi. Ça me manque presque.
Dans ce que tu dis, Philippe, il y a cette idée aussi de passer un peu inaperçu en fonction des endroits où on va, en tout cas de se fondre un peu dans le milieu. C'est un peu aussi ce que tu dis, toi, Sophie, dans cet extrait qu'on a entendu, même si c'est un peu plus compliqué quand on est sur des zones étrangères où effectivement, tu es vite identifié comme étant occidental, donc étant soit humanitaire, soit journaliste, en gros.
Oui, mais après... par exemple, une équipe de télé à trois, c'est beaucoup plus lourd et ça passe moins inaperçu que une personne seule, même si t'as ta caméra, tu la mets dans ton sac à dos. Et là, tu passes dans une voiture tranquille avec à l'arrière. Et souvent, même si t'es une femme, même si t'es occidentale, on te voit pas. Donc, après, je pense qu'il y a une grande... ce que raconte Philippe, mais je pense que c'est le cas aussi en reportage, il faut s'adapter, quoi. C'est la capacité d'adaptation, d'évaluer nos interlocuteurs en face, comment on peut... pas jouer d'eux, mais comment ça peut fonctionner pour le reportage, pour rentrer dans tel endroit, pour obtenir telle information. Donc, on passe notre temps à s'adapter à nos interlocuteurs, à la situation, pour pouvoir faire le boulot, quoi.
Et éventuellement analyser le danger potentiel et renoncer à certains sujets, parce que ça peut être aussi la réalité de ce métier-là.
Oui, voilà. Alors après, ça me faisait sourire quand j'entends Philippe dire « j'adore me bagarrer avec les autorités », c'est que c'est vrai que quand tu es sur un terrain de conflit ou un terrain de guerre ou de post-conflit, tu peux pas trop jouer au con, quoi. Alors qu'il y a plein de gens qui se prennent pour des cons et c'est très compliqué. Voilà, on va souvent dans des endroits où on n'est pas forcément copain avec les gens on n'est pas des militants, donc on choisit pas où on va raconter l'histoire. On a un accès, c'est l'accès qu'on nous donne qui nous permet d'aller à l'endroit pour raconter. Donc parfois on n'est pas toujours du côté des gens qu'on aime bien. Tout simplement. Et c'est très compliqué de travailler, surtout avec une caméra. Donc tout le monde veut contrôler l'information, même sur. C'est très rare d'avoir toute liberté pour filmer. Donc on se retrouve dans des situations où. J'étais en Azerbaïdjan, au Karabakh, il y a eu une guerre il y a deux ans. L'Azerbaïdjan a récupéré des territoires. À un moment donné, j'étais dans une ville où, à chaque fois, on était accompagné de deux personnes qui ne voulaient pas qu'on filme. Dès qu'on faisait un pas, ils disaient « Ah non, faut pas filmer là ». On faisait un autre pas « Ah non, faut pas filmer là ». Ah bon, alors qu'est-ce qu'on filme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on peut pas trop jouer au con et on peut pas trop s'énerver parce que notre sécurité dépend d'eux et qu'on peut se faire dégager et que, donc, on tourne là où on peut bien, on regarde quand même ce qui se passe pour pouvoir comprendre pourquoi ils veulent pas qu'on tourne. Donc on se dit qu'on va quand même essayer de pouvoir le raconter, mais voilà, donc c'est un peu plus compliqué et c'est vrai qu'il y a des situations, la différence en fait, le reportage de guerre entre le reportage tout court, c'est que il y a des questions de vie et de mort, tout simplement. Donc il y a des décisions parfois anodines, ou des remarques parfois anodines qui peuvent avoir des conséquences très graves.
Une des obsessions que j'ai dans cette émission, c'est de décortiquer ce vieux lieu commun qui traîne autour de notre profession. On en a un peu parlé tout à l'heure, qui voudrait qu'un journaliste soit guidé dans son travail par un souci de l'objectivité, alors que c'est le boulot le plus subjectif qu'il soit, et que personne, a priori, au sein de la profession, n'est vraiment dupe. Alors on va écouter un extrait de Désordre Ordinaire où justement on en parlait avec Philippe et on en discute après.
Cette histoire d'objectivité est une escroquerie absolue. L'objectivité n'existe pas. Tout ce que l'on dit, écrit, qu'on fait, est sous un angle. Et cet angle-là est subjectif, automatiquement. Y compris si on se contente de faire un empilage d'informations, c'est subjectif. Parce que tu pourrais choisir un autre empilage ou le simple fait d'enchaîner deux informations, tu laisses entre les lignes penser que. Donc la subjectivité, c'est la norme et il faut qu'elle soit honnête. Les seuls qui parlent d'objectivité sont les feignants, hein. Ou les gens qui ont quelque chose à cacher et disent « il n'est pas objectif ». Oui, ça veut dire que tu veux pas que ça sorte, quoi. Mais ou alors ceux qui veulent pas bosser et disent « moi, je suis objectif, donc t'en branles pas une ». Mais l'objectivité n'existe pas.
Sophie, tu partages ce constat ?
Ah, je suis complètement d'accord. C'est très, très juste. Il n'y a pas d'objectivité, il y a de l'honnêteté. Et l'objectivité, c'est... c'est une escroquerie. C'est pour pas bosser ou pour cacher des trucs. Mais il faut... Moi, je pense que la richesse du journalisme, c'est justement la subjectivité, la pluralité des regards. Donc, et il s'agit pas juste de dire c'est ça qui fait effectivement, il y a assemblé une histoire. Mais c'est marrant parce qu'en français, il y a pas ce débat-là chez les anglo-saxons. En français, d'ailleurs, quand on dit raconter une histoire ou raconter des histoires, c'est péjoratif. Alors qu'en fait, on raconte des histoires et sinon on nous écoute pas. Si on dit juste il y a eu une bombe à tel endroit, c'est pas tout à fait la même chose que que de la raconter les gens, les fenêtres détruites, les gens, les corps par terre, enfin, etc. Donc, et effectivement, on choisit. Donc, ce métier n'est que subjectivité, et c'est sa richesse.
T'imagines le niveau de prétention qu'il faut pour se dire objectif. C'est-à-dire, il y a un côté un petit peu divin, quoi. C'est-à-dire, tu vois tout. Tu sais tout. L'objectivité, ça voudrait dire qu'il n'y a même plus d'angle, c'est même plus nécessaire. Tout est décrit dans sa globalité. Enfin, je vois même pas comment c'est possible, tout simplement. C'est-à-dire, cette objectivité, quelque part, par contre, c'est un phare. C'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Parce que ce qu'on appelle objectivité, en fait, c'est l'honnêteté, souvent. C'est là qu'on se trompe. Et il faut essayer d'aller vers cette objectivité qui veut dire, tout simplement, essayer de laisser la parole à tout le monde, essayer d'aborder un sujet sous le plus d'angle possible, quand c'est possible. Sur un terrain de guerre, comme tu l'as dit, c'est l'accès qui te donne une objectivité, quelque part. Donc, voilà, il y a une difficulté de toute façon pratique à être objectif. Et donc, s'auto-congratuler comme objectif, c'est une prétention incroyable. C'est souvent, bon voilà, c'est très français comme débat. C'est pour une bonne cause au début, c'est-à-dire qu'on veut être au plus près de la réalité. Il y a le réel. Le réel, il est impalpable. Le réel, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que un objet a telle couleur, telle température, tout ça. Et quand on va le décrire, on va pas le décrire aussi froidement. On va décrire une réalité. Mais deux, trois personnes, en fonction de comment elles sont positionnées ou en fonction de la manière qu'elles ont de percevoir les choses, vont décrire des réalités un peu différentes, parfois des petits détails. Et nous, ce qu'on fait, notre rôle, c'est de raconter une réalité. On peut se tromper, moi, dans ce que j'ai écrit. Si on me reprend sur toute ma carrière des textes, il y a forcément des trucs que j'ai dit de traviole. J'ai d'ailleurs, au début, raconté des choses sur lesquelles je suis revenu, sur le fait que les jeunes des quartiers populaires, qui sont des guetteurs, se font beaucoup d'argent. J'étais le premier à le raconter. Sauf que petit à petit, en le racontant, je me disais, mais ça tient pas. Et c'est là-dessus qu'après, j'ai basculé vers autre chose. On évolue aussi. Donc, on dit pas une fois quelque chose figé. C'est pas possible. On n'a pas ses capacités, on n'a pas ses compétences. Donc il y a aussi derrière cette notion d'objectivité, cette notion de réalité.
Non, après, il n'y a pas. C'est un paradoxe aujourd'hui parce qu'il y a une compétition avec les réseaux sociaux entre le journalisme. En fait, il y a toujours une compétition entre la propagande, ce qu'on a appelé dernièrement les fake news, et le journalisme. Et le journalisme, donc là, parce qu'on est des artisans et on défend la subjectivité, parce que cette objectivité, c'est une escroquerie, Philippe a tout à fait raison de le dire, mais il n'y a pas plusieurs vérités, parce qu'il faudrait pas croire non plus que tout se vaut. Moi, on m'a déjà dit, et surtout par exemple sur les conflits syriens, où il y a le conflit syrien, mais l'Ukraine, c'est pareil. Il y a toujours une compétition entre la propagande et le journalisme, la vérité. Donc on dit, ah ben oui, mais toi, t'as raconté ça, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé, et il y a d'autres réalités. Oui, il y a d'autres réalités, mais il y a une vérité, il y a des faits, il y a une réalité historique, et le journalisme, on y contribue à notre petite échelle.
Est-ce que une manière de réparer un petit peu le lien de confiance qu'on sent tous et tous, je pense que quel que soit le côté duquel on se trouve du monde médiatique, qu'on soit producteur de contenu ou récepteur de contenu, on sent cette défiance qui s'est installée. Est-ce qu'un moyen de réparer le lien de confiance, c'est justement d'insister sur cette idée de subjectivité honnête dont parlait Philippe, d'honnêteté?
Après, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein, malheureusement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi tout simplement une volonté politique, il ne faut pas se leurrer. Donc quand on voit qu'en France, la redevance est supprimée, plus que jamais, on doit défendre le service public. C'est problématique quand il n'y a pas cette volonté politique dans les démocraties, quand il n'y a pas ce lien de confiance qui est défendu par les politiques, que ça soit le président de la République ou ça peut être les maires, ça peut être enfin des personnalités locales. Moi, je pense que ça, c'est très important, comme c'est important d'apprendre. Mais à l'école, mais voilà, il y a les deux piliers qui sont toujours des piliers instrumentalisés que tout le monde veut contrôler, ce sont les médias et l'école, l'éducation. Mais tout simplement des rencontres, je sais que aller voir des gamins dans des écoles, ça paraît stupide et n'empêche qu'après ils disent plus jamais les médias, ils se souviendront toujours qu'il y a une personne et ils humaniseront cette personne. Donc c'est plus jamais les médias dans leur tête, il y a un moment donné, il y a un journaliste, une femme, un homme qui est venu leur parler et ça existe. Et ce lien, je pense qu'il est ce lien humain, il est à reconstituer. Et encore une fois, il n'y a pas une solution miracle. Il y a plusieurs facteurs, mais je pense que la volonté politique est indispensable et nécessaire aussi.
Philippe ?
Complètement, c'est un travail de terrain, de toute façon. Donc, pour que le journaliste puisse faire un travail de terrain, c'est-à-dire prendre du temps pour obtenir quelque chose, notamment obtenir la confiance de quelqu'un, déjà, il faut des moyens. C'est quand même un métier précaire, parce qu'il y a quelques stars, il y a quelques personnes, une minorité qui ont un salaire confortable, il y a ceux qui en vivent, et il y en a beaucoup qui en survivent, particulièrement dans le milieu qui nous intéresse, de tout ce qui touche le son, de tout ce qui touche le podcast, et même à la radio. Hein, c'est pas des fortunes incroyables, ceux qui font des reportages. Donc déjà il y a des moyens à mettre en place, donc il y a plein de systèmes, hein. Comme tu dis, il y a autour de la redevance, autour de cette redistribution là, il y a peut-être des systèmes de fondation à l'américaine à mettre en place, je sais pas, il y a beaucoup de choses à penser qui font que en effet il faudrait déjà donner des moyens. Après il y a l'éducation aux médias, donc en effet aller dans des collèges, des lycées, dès qu'on peut, on le fait. Moi, c'est régulier. En ce moment, je travaille avec un collège à Miramas. On fait un petit journal, et donc j'y vais tous les 15 jours à peu près. Je passe un après-midi à Miramas, et chaque année, je fais ça. Je fais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est important parce que les minots, enfin les enfants, les gamins, ils mettent un visage sur ce qu'on appelle le journaliste, quoi. Et eux, ils ont plus cette vision notable que moi j'avais. Les journalistes, c'est plus des notables. Les journalistes, c'est des bâtards. C'est pas tout à fait pareil. C'est des gens qui peuvent raconter des conneries. C'est pas si compliqué avec les jeunes. D'aller dans cette direction-là. Mais pour ça aussi, il faut aussi donner des moyens. Parce que si le journaliste, moi je commence à aller tout le temps dans les collèges gratos, ce que je fais souvent, tu travailles plus après. Surtout quand tu es indépendant. Quand tu es indépendant, quand tu travailles pas, tu fais rien. Hein.
Ça, je pense qu'on est à un moment très particulier. C'est-à-dire que le monde dans lequel Philippe et moi on a grandi, ce monde-là n'existe plus. Donc, je pense à ça parce que quand je t'entends dire faire un journal, aujourd'hui, hier j'étais dans le métro parisien, il y a plus personne avec un journal dans le métro parisien. Moi, j'ai grandi où, dans le métro, les gens sortaient un journal. Tout le monde avait un journal ou un livre. Là, tout le monde est sur son téléphone. Donc, on est dans un autre monde. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément pris toute la mesure de ce que ça signifie, Et je pense que autant avant, il s'agissait de chercher l'information. Et je pense que ça a un impact sur nos métiers aussi. Aujourd'hui, l'information est disponible très rapidement, très facilement. Il y a une masse d'informations et il s'agit plus d'aller d'en faire sens, de l'organiser, de la penser, de l'expliquer. Et je pense que oui, je pense que tout ça change énormément et on n'a pas encore pris toute la mesure. Et donc dans la relation avec le public aussi s'informe différemment. Donc avec ces smartphones, moi quand j'étais enfant, pour avoir une information, on tapait pas sur Wikipédia, on l'avait pas direct, on allait à la bibliothèque chercher dans l'encyclopédie ou le Quid. Donc c'est un monde qui a complètement changé.
Là, on a beaucoup parlé de mutations et des projets passés sur lesquels vous avez bossé. Vous êtes tous les deux journalistes qui avaient le goût du changement de format, qui fait du long, du court. Philippe, on a dit des livres, des podcasts, différents types de journalisme. C'est quoi les projets, les envies pour la suite, Sophie?
Bah moi, je raconte jamais ce que je fais. Je suis un peu parano et un peu par superstition. Donc, où je vais. Je pense que si on touche à tout, à des formats différents, moi dans mon cas, ça a été surtout parce que les histoires le demandaient. Donc après moi j'adore le news, j'ai adoré faire du news, mais pareil on fait plus du news aujourd'hui comme il y a 10 ans. Mais j'adore être dans un événement, une actualité. Et après il y a des histoires, des enquêtes qui nécessitent d'autres formats. Mais je voulais dire sur la question de la mutation, ce que je voudrais ajouter, c'est que il faut pas être nostalgique. En fait, ce que moi je raconte en disant tout a changé, on s'informe plus. C'est aussi un moment de créativité.
Oui, c'est pas une sorte de dire c'était mieux avant. Oui, oui.
C'est comme aujourd'hui, le podcast ou la radio, le son a explosé et ça donne des choses extraordinaires, des choses très très riches. Il y a 10 ans, on pensait pas que la radio, le son allait donner une telle liberté de format, d'histoire. Donc je pense que c'est un moment aussi de créativité particulier et très intéressant. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, parfois, je me sens déjà très, très vieille, alors que j'ai 40 ans et quelques, et ça fait moins de 20 ans que je suis dans la profession. Mais il y a eu tellement de changements, et en même temps, je me dis, les aspirations, justement, il va y avoir encore plein de choses possibles, plein de formats possibles. Donc, il faut rester ouvert et optimiste, je pense, là-dessus, sur la profession, en tout cas. Ouais.
Philippe ?
Bon, moi, des projets, il y en a toujours beaucoup. En ce moment, je suis en tournage sur un film sur les supporters de l'OM, un film social, une sorte de portrait de la ville, un portrait de ce qu'est être derrière une foi et surtout l'Olympique de Marseille. Mais ça marcherait si je faisais Lens ou Saint-Etienne comme dernier lieu politique, en fait, où ça revendique en permanence pour tout et n'importe quoi et de manière très virulente. Et donc, c'est un film social que je suis en train de faire pour Canal+. En même temps, j'ai des projets de podcast, notamment avec vous. J'ai un projet de livre. Dès que j'ai le temps, je démarre. Et j'ai plein d'autres envies. C'est-à-dire, j'ai fait à peu près tout. J'ai fait de la BD avec la revue dessinée. J'ai même fait 7 live magazines. Donc, j'ai été 7 fois sur scène. C'est rigolo. Ça m'avait bien plu. Et voilà. Je me pose pas la question de savoir si je suis documentariste, journaliste, tout ça. Et l'idée pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire sur tel sujet, à quel moment aussi ça passe, à quel moment Arte me prend un film, ce qui est le cas actuellement. Je suis en cours de négo sur un truc qui peut se faire. À quel moment, si ce film se fait pas chez Arte, tu vas passer ailleurs. Puis au bout d'un moment, ton film devient un podcast. C'est comme ça. Hein. Ou au contraire, ton podcast peut devenir un film. Ça m'est pas encore arrivé, mais le contraire m'est arrivé. Donc tu navigues aussi. En fonction de la réalité économique du moment. Par contre, moi, l'envie que je n'ai pas, c'est de rentrer dans une rédaction. J'ai plus du tout envie de ça. J'ai plus du tout. Je préfère rester précaire dans le sens, non pas financier, mais le fait qu'il faille tout le temps se renouveler et indépendant, plutôt que d'être plus tranquille dans une rédaction. Aujourd'hui, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais aujourd'hui, une rédaction, ça m'intéresse plus.
Et est-ce que tu partages avec Sophie ce sentiment qu'il y a aussi plein d'opportunités qui se créent avec ces mutations, justement, qu'on décrivait ?
Si on prend, par exemple, le long format, avec la revue 21 un peu pionnière, et puis d'autres par la suite, le long format est quelque chose qui a explosé en France, qui avait existé il y a très, très, très longtemps, bien avant nos naissances à tous ici, et qui se sont mis à refonctionner au début des années 2000. Et aujourd'hui, le long format a un public. Si on prend tout ce qui est les objets sonores, là aussi, c'est un retour avec un côté moderne. Mais les années 80, c'était foisonnant. Puis après, ça s'est structuré. Puis là, c'est un nouveau foisonnant. Ça va se structurer pour le pire ou le meilleur, d'ailleurs. Je sais pas. Hein. Et donc, pour le son, il y a ça. Pour l'audiovisuel, pareil. Il y a à la fois une très bonne qualité audiovisuelle, grosso modo, dans les chaînes chaîne française, et en même temps il y a la possibilité de produire des petites choses, petites dans le sens, non pas sur le contenu, mais dans les moyens qui vont être destinés qu'à du réseau social. Donc ça c'est pas mal, il y a dans les réseaux sociaux des choses, des formats très courts qui sont réussis. Après, c'est pas regardé par la masse, faut pas se mentir, hein. La masse elle regarde plus des filles qui refont la danse de mercredi dans le film de Tim Burton que des sujets d'actualité. Mais bon,
est-ce que ça
n'a
pas toujours été comme ça ?
C'est sûrement, ça a toujours été comme ça. Et moi, je crois beaucoup, justement, dans ce sens, à la pop culture et au soft power, on appelle ça comme ça, la pop culture. Donc moi aussi, j'aimerais aller, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais aller vers la fiction, parce que la fiction est aussi un moyen de raconter et de toucher un public qu'on ne touche pas d'habitude. J'avais démarré, moi, un documentaire pour TF1, avec une boîte de prod dont je ne dirai pas le nom, et finalement, on était trop incompatibles. Mais pourquoi je voulais faire ce truc avec TF1 ? Parce que d'un seul coup sur un sujet que je connais bien, qui était les stups, je touchais pas quelques centaines de milliers de personnes, ce qui est déjà pas mal. J'en touchais 12 millions d'un coup, et en plus je touchais les gens dont je parle dans mes livres et qui ne lisent pas mes livres. Donc c'était intéressant pour moi. Puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible, que l'attente de ces chaînes n'est pas ce que je produis. Donc ça s'est arrêté. Et donc maintenant je voudrais passer par de la fiction à la The Wire, quoi. Tout le monde rêve de faire The Wire. Tout le monde sait que The Wire, c'est moi qui le ferai d'ailleurs.
Oui, mais, bien sûr. C'est le David Simon
donc,
français.
Souvent on dit que je suis le Saviano français parce que j'ai la même tête que Saviano, mais je ne suis pas le Saviano français, je suis plutôt le David Simon français. Donc mon idée, c'est vraiment aussi d'aller vers un The Wire comme ça. Évidemment, on n'aura jamais les moyens d'un The Wire, mais il faut faire quelque chose qui va dans ce sens. C'est en route.
La fiction, c'est pas un domaine qui toi t'attire, Sophie, je crois.
Alors si, parce qu'en fait, quand j'écoute Philippe, et effectivement, ce qui nous attire, c'est raconter des histoires, c'est de raconter. Moi, je trouve que la réalité est tellement dingue et que la réalité dépasse toujours la fiction, que c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc pour l'instant, je suis encore très attachée à cette réalité qui fournit un nombre d'histoires à raconter. Je sais pas sûr que la vie suffise pour toutes les raconter.
Il me reste à vous dire merci à tous les deux. Merci au public et au festival Longueur d'onde de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.